Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Anne Cantino, bonjour.
Bonjour, bonjour Yves.
Anne, tu es avec nous pour nous annoncer un prochain passage, vendredi 12 juin à 18h au Café Théâtre Andarta. Et ce sera pour nous présenter Vivant.
Oui, c'est un programme de montage de textes autour de ce qu'on appelle le vivant, c'est-à-dire l'intelligence des fleurs et l'intelligence animale et de tout ce dans quoi nous sommes baignés et qui nous constitue.
Ce désir de partager, ce sont plusieurs textes assemblés pour proposer ce moment.
Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est-à-dire que c'est venu de ma lecture de deux auteurs. Depuis longtemps, je suis lectrice de Maurice Maeterlinck, qui est un auteur belge francophone, donc qui a vécu au fin 19e, début 20e, qui a écrit beaucoup de théâtre et de la poésie, mais qui a aussi écrit des œuvres philosophiques et des œuvres de ce qu'on appelait à l'époque de naturaliste. Puisqu'il avait un jardin, des ruches, il observait la nature. Et donc il a écrit sur l'intelligence, la vie des abeilles, la vie des fourmis, la vie des termites. Et il a écrit un recueil aussi de textes qui s'appelle l'intelligence des fleurs, parce qu'il observait les fleurs de son jardin et il l'observait vraiment de façon scientifique avec les connaissances de l'époque, mais c'était quelqu'un de très très éclectique et voilà. Et donc je lis cet auteur depuis très longtemps et j'ai découvert récemment par ailleurs, ça fait quand même maintenant 4-5 ans, mais Baptiste Morisot, donc il y a un auteur contemporain qu'on dit maintenant éthologue, donc on a remplacé le mot naturaliste par le mot éthologue, c'est-à-dire qu'il étudie les animaux, les comportements animaux, de tout type d'animaux. Et il a écrit notamment « Manière d'être vivant » et « Sur la piste animale ». En tout cas, c'est ces deux livres-là dont je m'inspire et dans lesquels j'ai puisé... ça m'a tellement enthousiasmée que je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager ces textes et de faire un parallèle avec cet auteur, donc Maurice Maeterlinck, qui est bien plus ancien, mais qui, dans son genre et avec les outils et la façon de faire de son époque, mettait le curseur et l'accent sur d'autres intelligences que les intelligences humaines.
Tu m'as fait parvenir deux extraits, l'un de Baptiste Morisot, l'autre de Maurice Maeterlinck. Est-ce que tu voudrais peut-être nous lire cet extrait concernant la crise ?
Donc le premier extrait, c'est un extrait de « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot. Donc « La crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. L'enjeu est donc de repeupler, au sens philosophique de rendre visible, que la myriade de formes de vie qui constituent nos milieux donateurs sont elles aussi, depuis toujours, non pas un décor pour nos tribulations humaines, mais les habitants de plein droit du monde, parce qu'ils le font par leur présence. »
Il y a dans cette proposition la manière d'être vivant de Baptiste Morisot. Qu'est-ce qui ressort principalement de ce texte qui t'a donné envie de le partager ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que Baptiste Morisot, il y a beaucoup d'exemples notamment dans ces deux textes, donc dans Manière d'être vivant et Sur la piste animale. D'exemples d'animaux autres qu'humains qui ont des comportements, donc il décrit les comportements, il décrit les attitudes et qui sont une manière d'avoir gardé des intelligences que nous, animaux humains, avons dû atrophier pour pouvoir évoluer. Et en fait, lui, il se place dans un rapport qui n'est pas surplombant de l'être humain d'un côté et de la nature de l'autre côté, mais de l'homme faisant partie du monde au même titre, c'est-à-dire sur un pied d'égalité avec d'autres animaux qui ont, eux, développé d'autres types d'intelligence en fonction de leur évolution. Et donc, il se place dans la suite de Philippe Descola, donc de l'anthropologue Philippe Descola, qui avait écrit « Par-delà nature et culture », qui a désamorcé ou décomposé le concept de nature comme étant quelque chose d'extérieur à nous et qui l'a remplacé par la notion de vivant. Et en fait, c'est vrai que là, ce qu'il dit dans l'extrait que je viens de lire, c'est qu'en fait, les autres vivants constituent la façon dont nous pouvons vivre. C'est-à-dire que les insectes pollinisent, donc fabriquent d'une certaine manière le printemps, le sol est aussi un organisme vivant, l'air est un organisme vivant qui fabrique l'oxygène, enfin les arbres fabriquent l'oxygène et donc l'air est aussi quelque chose d'organique et de vivant. Et donc tout, en fait, ce dans quoi nous sommes baignés permet au milieu de vivre, c'est-à-dire que les arbres produisent ce qui leur permet de vivre et les insectes aussi, mais il nous permet aussi aux autres de vivre. Et donc c'est tout un changement de paradigme qui fait que l'être humain n'est pas en dehors de quelque chose qu'il contemple, mais complètement plongé dans quelque chose qui lui permet d'exister. Et du coup, ce qui m'a intéressé aussi, c'est à la fois donc toutes ces intelligences animales autres qu'humaines, qui finalement sont des choses à reconvoquer à l'intérieur de nous. Il propose que en fait nous sommes faits encore de ces intelligences-là, même si on les a un peu atrophiées et qu'on peut les reconvoquer. Et l'autre chose, c'est de dire, mais en fait, nous devons laisser tous ces vivants-là pouvoir avoir comme un rôle politique. Donc, il parle de diplomatie du vivant, il se place en tant que diplomate du vivant, et il considère qu'en fait, nous devons rentrer en échange et que tous ces animaux-là, tous ces vivants-là, doivent pouvoir avoir leur façon de s'exprimer, parce que d'une certaine manière, c'est grâce à eux que nous pouvons exister. Ce n'est pas des choses posées comme ça devant nous, ce sont des êtres et des forces qui nous permettent de vivre. Donc, moi, ce qui m'a intéressé aussi, l'autre chose, à part toute cette vitalité à reconvoquer en soi en prenant exemple sur les animaux, c'est l'aspect politique, qui est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire comme si nous étions supérieurs, dominants, parce qu'on aurait l'intelligence supérieure et que les autres vivants seraient inférieurs. Il y a vraiment une interdépendance qui fait qu'on doit laisser aussi une place politique à ces êtres et à ces forces. Et ça m'a vraiment paru essentiel de le partager, de le communiquer, parce que moi, ça m'a vraiment fait me repositionner quand je l'ai lu. D'abord, ça m'a énormément réjoui par rapport à une attention à soi-même, c'est-à-dire de se dire, mais tiens, en fait, en nous, il y a des forces parfois contraires, parfois même combattantes, parfois de nature très différente, et ces forces, comment on peut trouver à ce qu'elles cohabitent ensemble, à ce qu'elles puissent communiquer, etc. Et lui, il en parle, il parle aussi de ça par rapport aux vivants extérieurs, c'est-à-dire toutes ces forces-là qui sont parfois antagonistes ou parfois complémentaires, parfois dans l'entraide ou parfois dans la rivalité. Comment on fait pour trouver un dialogue et une cohabitation diplomate ?
Tu as déjà certainement procédé à cette lecture en public. Est-ce qu'il y a un écho, un retour de ces textes en échange, en fin de spectacle ? Et est-ce que c'est un avis que tu ressens partagé par beaucoup ?
Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez touchant, c'est que déjà, il y a les personnes qui connaissent Baptiste Morisot et son travail, et qui sont d'avance convaincues, et qui donc viennent pour réécouter ces textes. Et il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas son travail, qui n'ont pas forcément conscience de cet aspect-là du monde, qui sont encore dans une appréhension séparée. Il y a d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. C'est très très passionnant parce que c'est très pédagogique cette lecture, c'est-à-dire qu'il donne des exemples de comportements animaux, donc de la panthère, de l'aigle, du loup, de plusieurs types de il parle du fait qu'on sale aussi et que donc l'eau qu'on a en nous est salée, donc on vient vraiment du milieu aquatique. Il parle de l'éponge avec laquelle on se lave, l'éponge naturelle et qui est vraiment notre ancêtre commun. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, très, très divers, qui nous rapprochent, en fait, qui nous rattachent et qui sont très parlants. Et donc, les gens, en général, se sont interpellés parce que c'est très concret. Et ça, c'est très chouette à ressentir et à partager. Et puis, les gens qui découvrent ces textes, tout comme moi, sont dans un état aussi d'enthousiasme parce que du coup, ils ouvrent vraiment des perspectives de considération, de prise en compte de ce qu'on dit nous entourer, mais de ce qui finalement nous constitue et nous permet de respirer, de marcher, de penser, de vivre. Et tout ça donc, nous remet dans quelque chose de bien plus... en fait, si tu veux, on n'est plus des êtres dominants, on est des êtres parmi d'autres et même en minorité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, il met en lumière à quel point l'être humain, vivant humain, est minoritaire dans le monde par rapport au reste du vivant. Et ça, c'est très frappant et c'est toujours très goûtu, enfin, pour les gens, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très sensible et de très puissant.
Pendant ce spectacle que tu proposeras, il y a aussi des ponctuations, celle notamment d'Henri Michaud, que tu proposes un cœur de grenouille.
Oui.
Et il y a aussi des textes de ta part. Il y aura trois propositions.
Il y a deux fables, oui. Il y a deux fables que j'ai écrites. Il y a Rainer Maria Rilke, dont je lis un texte qui s'appelle « Les vents du retour ». Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement que cette pensée de cette conscience et cette pensée de notre place non dominante dans le monde, elle a été souvent discréditée, invisibilisée ou malmenée, mais elle est d'aussi longue existence que même plus que le fait de dire que l'homme est supérieur aux autres animaux puisque grâce à son intelligence, etc. quoi. Donc c'est vraiment des courants lointains. Et alors Rainer Maria Rilke, c'est plutôt parce que d'abord parce que c'est un poète que j'adore et aussi parce que justement il y a quelque chose dans le travail de Baptiste Morisot qui renvoie à nos propres animalités intérieures, à nos propres au rapport au comme si on était poreux, si tu veux, comme si nous étions des êtres poreux entre le cosmos et notre intérieur, quoi. Et le poème de Rilke qui s'appelle « Les vents du retour », il est très parlant en ce sens-là. Donc j'avais envie de l'intégrer. Et Henri Michaud, alors le cœur de grenouille, c'est parce que vraiment c'est un poème très très assez drôle, quoi, qui parle vraiment d'un cœur de grenouille qui continue de battre alors que il est détaché du corps et que cette force vitale est tellement folle, dingue. Il en a fait tout un texte qui est absolument génial, quoi, sur la vitalité, sur le comment dire, notre force vitale, quoi.
Oiseau de Facchini, ça c'est aussi une autre proposition.
Pierre Facchini, c'est un chanteur irlandais et italien, je crois, enfin entre les deux. Je crois qu'il habite dans les Cévennes. Et Oiseau, c'est une chanson que j'ai entendue par hasard. J'écoute beaucoup son travail. C'est sur comment... Voilà. Parce qu'en fait, au début, je voulais intégrer des extraits d'un autre livre d'une femme qui s'appelle Vinciane Després, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle Habiter en oiseau. Donc, elle a écrit aussi sur le poulpe, elle a écrit beaucoup sur les animaux. Et d'ailleurs, ils se connaissent, je crois, avec Baptiste Morisot. Et donc, elle a vraiment écrit ce livre Habiter en oiseau à partir de l'écoute du chant du merle, qui l'a tellement interpellé sur le sens de ce chant, qu'est-ce que l'oiseau fait en chantant, et surtout un chant qui est comme ça offert et gratuit. En fait, je n'ai pas réussi à intégrer de texte d'elle dans cette conduite de texte, mais il y avait cette chanson de Pierre Facchini qui parle d'un dialogue avec un oiseau à qui il demande de lui redonner du sens et de la lumière, et donc ça m'a paru être une belle introduction.
On peut parler aussi de Sauterelle hanneton, hein, en deux parties, je crois.
Oui, ça, c'est des fables que j'ai écrites. C'est un peu pour faire des... En fait, c'est-à-dire que dans tous ces textes-là, moi, j'ai essayé vraiment de transformer la théorie en, en théâtralité, c'est-à-dire que j'interprète à chaque fois vraiment les textes, j'essaye de leur donner tout leur... je fais mon travail d'interprète et d'actrice, si tu veux, je leur donne toute leur... une vitalité, une corporéité et un ludisme. Mais il y a aussi le besoin de faire des petites des changements d'énergie, des petits interludes. Et ces deux fables, je les ai écrites il y a très longtemps. Et c'est comme des métaphores, en fait, de philosophiques, un peu comme je me suis évidemment inspirée de La Fontaine, sur une sauterelle qui rencontre un hanneton et ce qui s'ensuit.
Un Maeterlinck, un auteur aussi que tu as découvert. D'ailleurs, on peut introduire cette personne par cet extrait. Hein.
Oui, alors, ce monde végétal qui nous paraît si paisible, si résigné, où tout semble acceptation, silence, obéissance, recueillement, est au contraire celui où la révolte contre la destinée est la plus véhémente et la plus obstinée. C'est un extrait de L'intelligence des fleurs. Et en fait, je m'aperçois que c'est vrai qu'il y a quand même une volonté très politique chez ces deux auteurs, chacun à leur manière, de façon assez douce, c'est-à-dire pas du tout avec des grands cris et des grandes phrases militantes, mais il y a quand même une façon de remettre l'être humain à sa place et de dire que le fait de s'inspirer des végétaux ou des animaux, des autres animaux pour penser, pour réfléchir, pour se relier et pour évoluer, ça pourrait être une bonne idée quand même. Et de sortir de la suprématie humaine pour pouvoir revenir à d'autres connexions. Et c'est vrai que Maeterlinck, c'est pareil, il décline toute une description de très nombreux végétaux. Alors lui, son axe, c'est la reproduction et le déplacement des végétaux. Parce qu'effectivement, cette phrase-là que j'ai lue, elle est liée au fait que son axe de départ, c'est de dire que les végétaux ont une fatalité intrinsèque qui est qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont fixés à leurs racines. Et que donc, ils ont mis en place d'infiniment nombreux systèmes pour et se reproduire et se déplacer. Donc il y a toutes les graines qui sont transportables par le vent, par les animaux qui les transportent, par les pollinisateurs, etc. Mais donc il décrit tout ça et finalement il y a vraiment un aspect de dire mais c'est pour ça que cette phrase moi elle me paraît très importante de dire mais en fait les végétaux ont une fatalité extrêmement claire et précise et contre laquelle ils ont mis une énergie que nous-mêmes êtres humains n'avons pas forcément réussi à mettre en place contre nos propres fatalités qui sont beaucoup moins claires et ou beaucoup plus diluées ou beaucoup plus que nous n'avons pas forcément la force ou justement l'intelligence de combattre suffisamment pour qu'elles disparaissent. Et donc, après c'est un peu caricatural ce que je dis, mais en tout cas il remet vraiment les végétaux et les plantes et les fleurs à un degré très élevé de combativité et de succès dans leurs entreprises, quoi. Et donc c'est pareil, ça nous... Donc c'est un texte qu'il a écrit au début du XXe siècle et donc ça nous remet vraiment dans autre chose que la domination humaine sur le monde. Et je trouve ça très, non seulement intéressant, mais salutaire en fait.
Est-ce que la perception de la nature qu'avait l'humain à cette époque existe-t-elle toujours aujourd'hui ou alors il faut lui réapprendre aussi cette perception, notamment dans des zones comme les cités urbaines où ça devient peut-être beaucoup plus difficile.
Oui, mais je dirais que oui, ça c'est clair que dans les cités urbaines c'est quelque chose de vital et puis surtout que les gens sont très très coupés de ce qu'on appelait la nature. Enfin voilà, et les gens ne vont plus beaucoup dans les jardins ou non plus. Voilà, il y a plein d'enfants qui ne voient plus d'animaux ou d'animaux sauvages ou même d'animaux de la ferme, etc. Enfin, il y a vraiment toute une rupture. Mais moi, tu vois, je pense aussi aux mouvements qui ont eu lieu récemment avec la Confédération paysanne, avec les mouvements paysans, justement, de dire que là, il y a des problèmes, justement, qui sont traités de façon industrielle avec les animaux et avec la culture, et la culture en sens agriculture, quoi. et que ça aussi, ça tue le vivant et que c'est délétère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne se met plus du tout à l'écoute du vivant, mais qui se remet dans une prédation et dans une industrialisation de notre consommation humaine. Et il faut que ce qui est autour de nous soit au service de nos besoins. Or, il y a des paysans, il y a des gens qui travaillent la terre, qui travaillent avec les abeilles, justement, qui travaillent avec tout ce qui nous nourrit et ce qui nous fait vivre, qui ont une conscience, mais depuis très longtemps, depuis toujours et toujours encore maintenant, qui ont une conscience que c'est très délétère. Et d'un point de vue, évidemment, du vivant, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue social. Et donc, c'est aussi dans ces axes-là que, en fait, finalement, que ce soit, par exemple, Méterlin, que je pense que c'était quelque chose qui, sans doute, dont il était très conscient. Enfin, c'est des mouvements qui existent depuis. Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont un peu, peut-être à des moments, été invisibilisés parce que l'industrialisation a été seulement promue, mais en plus rendue évidente par les discours et par les besoins de l'époque, que finalement toutes les personnes qui étaient à l'époque écologistes ou qui disaient qu'il fallait faire attention, etc., à ce genre de d'attitude, étaient complètement ridiculisées ou invisibilisées. Et finalement, là, il y a quand même un retour, mais pas seulement en ville. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a des zones non urbaines dans lesquelles des conflits de cet ordre peuvent aussi exister, je pense. En tout cas, c'est ce qui me semble, tu vois, entre les différents groupes d'agriculteurs, par exemple, et en fonction des nécessités de chacun.
Par rapport à Méterlin, qu'est-ce que tu trouves évident de son écriture qui nous est adressée ?
Méterlin, c'est un auteur de théâtre, c'est un poète. Donc, Baptiste Morisot, lui, il est vraiment universitaire, il est chercheur, il est arpenteur, il est pisteur, il est sur le terrain. Mais Méterlin, il a une écriture vraiment très incarnée. Et donc, il s'adresse à son lecteur et à sa lectrice, et il crée comme des personnages à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque chapitre, il aborde une plante différente, une fleur différente, et à chaque fois, il la décrit, mais comme... alors, c'est très... voilà, c'est un peu anthropomorphique, si on veut, même si ça ne l'est pas du tout, en vrai. Mais disons que il y a quelque chose de très vivant dans le sens où moi j'ai l'impression vraiment d'incarner des personnages à chaque fois, et il y a une langue, une écriture qui est vraiment théâtrale, quoi. Donc il pose des situations, des suspenses, des décors, et ça c'est extrêmement joyeux parce que ça aussi ça fait contrepoids, et en même temps c'est très complémentaire avec, il me semble, à mon sens, avec ce que décrit Morisot. Parce que du coup, moi, Méterlin, que j'ai vraiment choisi des textes qui parlent de l'intelligence des fleurs et de des stratégies qu'elles mettent en place pour se reproduire. Mais il y a aussi, donc si tu veux, c'est une autre intelligence que l'animalité. Mais il y a aussi des extraits sur la vie des abeilles et la vie des fourmis. Donc il y a des ponts entre les deux. Et ce qui me paraît moins très très réjouissant, c'est de voir comment ça peut dialoguer, les deux peuvent dialoguer. Et Méterlin, il a vraiment quelque chose de... c'est à la fois philosophique, mais c'est extrêmement habité. Donc, en tant que comédienne, ça me permet de jouer, d'être dans quelque chose d'assez drôle, d'assez léger, c'est-à-dire c'est à la fois très renseigné. Enfin, je veux dire, Méterlin, c'est pas du tout quelqu'un qui prenait les choses à la légère. Il avait vraiment... il étudiait vraiment ses sujets, mais en même temps, il avait vraiment un humour et une espèce de folie, comme ça, de... Et puis c'est très, c'est quand même sur la reproduction des fleurs, et les fleurs sont quand même les organes sexués de la plante, et donc il y a vraiment quelque chose de très gourmand, de très jouisseur de la vie qui transparaît à travers ces textes sur les plantes. Et ça c'est vraiment très réjouissant. Et ça fait vraiment écho et résonance avec Morisot qui est lui dans un autre type d'étude.
Par rapport à ces proposition de Méterlin, notamment la vie des abeilles ou celle des fourmis, est-ce qu'il amenait ce point de vue au niveau de cet insecte pour décrire l'environnement, ou alors c'était un regard de lui, humain, sur le comportement d'une abeille ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, que ce soit dans la vie des fourmis, la vie des abeilles, ou bien, il a écrit aussi un livre sur la vie des termites, c'est comment ces animaux font société. Donc j'ai pris des très courts extraits, mais il y a à la fois le rapport à la société des abeilles, au monde de, enfin voilà, ou à la société des fourmis, comment ils s'organisent, comment ils, mais aussi bon, Maeterlinck c'était quand même aussi quelqu'un de croyant et mystique, et donc il y a quand même ce questionnement sur le mystère de ces vies, le mystère du sens de ces vies. Et ça, c'est quelque chose qui me touche aussi énormément, parce que du coup, si tu veux, il ne parle pas du point de vue des abeilles et des fourmis, mais il s'interroge sur leur fonctionnement vraiment de société et sur l'incompréhensible en même temps. Donc, puisque évidemment, les abeilles ils peuvent se faire comprendre, mais enfin, on n'est malheureusement pas très fort pour les comprendre vraiment. Donc, on ne peut pas échanger, on ne peut pas parler avec eux, on ne peut pas comprendre. Et donc, c'est ça qui est très, très beau, c'est qu'il y a vraiment une poésie aussi de ça. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Morisot, il dit ça aussi, c'est-à-dire qu'on est obligé de fabriquer comme des histoires, on se raconte des histoires à partir de ce qu'on voit. Par exemple, des traces ou des choses comme ça, des animaux, on se raconte des histoires sur leur comportement et on va vérifier ensuite si les histoires qu'on se raconte sont plausibles en fonction de ce qu'on observe. Donc il y a toujours une dialectique entre la recherche la plus scrupuleuse, une espèce de fantaisie, de poésie, de se raconter des choses, quand même à partir de ce qui est observé, hein, mais sans vraiment savoir si on a raison de penser ce qu'on pense, parce qu'on n'aura pas vraiment de réponse. Donc ça, c'est très très beau, et c'est très beau chez les deux d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Et du coup, du mystère, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se comporte, comment on se comporte? Qu'est-ce qui, par exemple, il y a un moment donné où Maeterlinck, il y a tout un texte sur qu'est-ce qui fait que les fourmis peuvent agir toutes dans le même sens, alors qu'elles sont disséminées. C'est-à-dire elles sont comme reliées les unes entre les autres, alors que elles sont disséminées toutes éparpillées, quoi, et pourtant elles répondent à une espèce de chose commune. Moi, ça me touche beaucoup, parce que ça se rattache à nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce que, de même que tu vois Morisot, pour lui les animaux extérieurs, nous on a eu l'habitude, enfin, on nous a éduqués beaucoup en disant qu'il y a des animalités en nous inférieures, qu'il faut dominer, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, les désirs, les passions, etc., machin. Et lui, il dit, mais c'est un discours complètement fallacieux. Enfin, il n'y a pas de dominant et de dominé. Il n'y a que des coexistences intérieures avec lesquelles il faut s'entendre. Et donc, ça, c'est un regard pour moi tout à fait proche de la psychologie, ce qui peut m'intéresser, par exemple, chez Jung, chez Carl Gustav Jung, chez les psychologues comme ça, mais il y a aussi cette chose de tout d'un coup, quel est le sens de notre propre existence d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, comment ça se fait qu'on se comporte comme on se comporte, etc. Tu vois, il y a quelque chose, et ça c'est très très beau, parce que ça passe par l'observation des végétaux et des animaux, par le mystère de ça, le mystère de ce qu'on observe et de ce qui nous force notre respect, nous émerveille, nous questionne, nous inquiète parfois, et en même temps nous ressemble aussi, et nous ressemble dans ce qu'on peut ne pas comprendre, quoi.
Rendez-vous le vendredi 12 juin à 18h au Café Théâtre Andarta,
ouais.
57 rue Émile Laurence à Die. Il y aura un moment de convivialité par la suite de cette présentation qui dure 1h15 environ, hein.
C'est ça, environ 1h15. Et puis c'est vrai que moi, je suis toujours très heureuse si les gens peuvent rester un peu après pour échanger, pour dialoguer, pour avoir leur retour, leurs impressions sur ce qu'ils ont reçu. Moi, mon projet, tu vois, c'est un projet littéraire et musical et théâtral autour de projet de la dévoreuse, hein. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important d'avoir ces liens aussi aux spectateurs, aux spectatrices, et de pouvoir échanger ensuite autour de ce qui s'est partagé dans la représentation.
Anne, pour terminer, est-ce qu'on pourrait proposer... peut-être une des deux chansons.
La chaleur animale.
Pour retrouver aussi les informations te concernant, tu as également une page Facebook, Anne Cantino, oui. La dévoreuse. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Et je crois que tu as aussi un compte Instagram, il me semble.
Oui, j'ai un compte Instagram, c'est AnneDVRV, en petit, comme dévoreuse. Anne DVRV. Voilà. Et où je poste régulièrement des choses concernant mon travail et d'autres choses aussi. Mais voilà, on peut me suivre comme ça. Et puis, il y a les interviews que tu avais faites précédemment, puisque c'est quand même la troisième fois que j'ai la chance de pouvoir venir au Café Théâtre en Darta. On trouve aussi des choses sur YouTube aussi, sur mon parcours de comédienne, d'actrice de cinéma, de théâtre. Et il y a aussi quelque chose sur, des choses sur SoundCloud aussi. Voilà, donc c'est possible de me contacter par les réseaux. Et puis après, si... Et effectivement, ce projet, il fonctionne au bouche à oreille, il fonctionne... Voilà, sur des gens qui ont envie d'organiser des choses, soit chez eux, soit dans des lieux de poche et du proche, des cabarets, des cafés-concerts, des cafés culturels, des cafés associatifs, des librairies, des bibliothèques, etc., des galeries. Donc voilà, si d'aventure le désir est là, il suffit de me contacter par ces réseaux et je me ferai un plaisir de répondre.
Est-ce que tu as d'autres dates autour de cette du 12?
Ah, oui. Bien sûr. Alors, il y a donc le lendemain, le 13, donc samedi 13 juin, je suis à Chichiliane, dans l'Isère. C'est chez des particuliers, mais il y a encore des places. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent venir, eh bien, c'est possible de me joindre par les réseaux sociaux et je peux réserver des places. Ce sera aussi ce programme vivant. Ensuite, le 16 juin, je serai à Montélimar, à la librairie Champs Libres, à 19h. Et là, ce sera pour un spectacle qui s'appelle L'errante sévillane, qui, donc c'est un nom un peu en trompe-l'œil, parce que c'est un spectacle avec des chansons françaises des années 30. Donc en fait, c'est un texte que j'ai écrit qui se passe à Séville. J'observe une femme qui a un comportement qui me paraît bizarre, et en fait, pour expliquer ce comportement, eh bien, je l'illustre par des chansons françaises des années 30, des chansons uniquement féminines, de femmes. Voilà, donc ça passe de Gaby Nombreuse à Fréhel, Damia, Lise Gauthier, Yves Gilbert, etc. Et puis ensuite, le mercredi 17 juin, je serai à Viviers à 19h aussi, pour de nouveau pour vivant, voilà. Donc là, j'attends un peu de savoir si ce sera dans un café ou chez des particuliers, mais en tout cas, je continue ma route.
Anne Cantino, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps pour nous présenter ce rendez-vous donc avec Vivant.
Ben, merci beaucoup à toi Yves, et puis à très bientôt à toutes les personnes qui écoutent, et rendez-vous le 12 à 18h au Café Théâtre en Darta, avec plaisir.
Il nous restera là. Chaleur animale dedans les yeux et dans nos bras, la chaleur animale. Quand tout aura duré, quand rien n'aura cessé dans ce feu qui sommeille. Et jamais ne faiblir, on se blottira. Tu me diras, ici, c'est là-bas. Ailleurs n'existe pas. Ah. Ailleurs n'existe pas. nous restera la chaleur animale dedans les creux au fond des voies. La chaleur animale quand tout aura déçu, quand tout aura vécu dans ce feu qui nous veille. Et jamais ne trahis, on se blottira. Tu me diras, ailleurs n'existe pas.